Democracy is on the ballot. Your freedom is on the ballot.
Washington, D.C.
So now we have a new victim to defeat. Lion Kamala Harris.
I know Donald Trump's type.
Le podcast des médias francophones publics.
She is a radical left lunatic who will destroy our country.
USA! USA! We'll stop Donald Trump's extreme abortion bans.
Kamala, you're fired. Get out of here. You're fired.
And when we fight, we win. God bless you.
Washington, D.C.
On est à 6 semaines de l'élection. Harris et Trump sont au coude à coude dans les sondages et ils battent la campagne comme nous. Jordan Davis de la RTS est à Scranton, Pennsylvanie. Hello Jordan.
Hello Sébastien.
Frédéric Arnould de Radio-Canada est à Detroit, Michigan. Détroit, Michigan. How are you, Fred?
Pretty good, my friend. Pretty good.
Very good. Sonia Dridi de la RTBF est ici à DC. Comment ça va, Sonia?
Ça va, merci.
Guillaume Nodin de RFI est ici aussi. Tout va bien, Guillaume?
Mieux, ce serait mal.
Bien. Je suis Sébastien Paour de France Info et vous êtes tous les bienvenus dans ce 9e épisode de Washington DC saison 2. Je vous donne le sommaire du jour, outre les déplacements des deux candidats, Harris et son flingue, Springfield et les chiens et chats qui passeraient à la casserole, et le black nazi de Caroline du Nord. On part d'abord en Pennsylvanie. Avec toi, Jordan, le vote anticipé a commencé dans cet état, état clé de l'élection, état bascule, état pivot. Est-ce que le cœur des électeurs que tu rencontres, Jordan, balance lui aussi ?
Oui, je suis dans ce coin de l'État où on voit vraiment la progression de Donald Trump. Ces coins, historiquement, classe ouvrière, le white working class, comme on disait, et qui ont massivement plébiscité Trump en 2016. C'était un choc pour beaucoup de gens parce que là, traditionnellement, c'était démocrate, c'était syndiqué, post-industriel. Eh bien, et là, on voit combien, je mesure combien finalement, la Trumpisation gagne les esprits ici, il s'installe. Je suis juste à côté de Luzerne County, qui est un comté qui maintenant, il y a une majorité d'électeurs inscrits comme républicains. C'est du jamais vu ici. Et quand on parle avec les électeurs, c'est frappant de voir combien l'argument économique et l'argument finalement identitaire, ces deux arguments se rejoignent et les gens vont vous dire, ah oui, mais le prix des logements, ça flambe parce qu'il y a trop d'immigrés qui viennent, ils changent notre culture et ils font flamber les prix des logements. C'est autant de conversations comme ça qui montrent combien ces idées-là s'installent maintenant durablement dans le paysage ici.
Même question à toi, Fred. Tu es dans le Michigan en ce moment, mais tu as passé pas mal de temps dans le comté Derrière, autre comté en Pennsylvanie, au nord, hein, à la frontière du lac Erie, au bord du lac Erie, comme son nom l'indique. Rappelle-nous pourquoi ce comté en particulier est finalement un très bon baromètre. On est à 40 jours de l'élection.
En fait, depuis 2008, donc ça fait 4 élections présidentielles, les électeurs ont toujours sélectionné le vainqueur dans cette course à la Maison-Blanche. Donc Obama 2 fois, Trump, Biden. Et maintenant, selon les sondages, c'est une égalité parfaite en fait entre les deux candidats en Pennsylvanie. Erie, c'est une ville qui était touchée par l'inflation, une ville ouvrière qui était confrontée aux mêmes problèmes de ce type de municipalité à travers les États-Unis. Une fermeture d'usines, un appauvrissement qui était en fait, on va dire, accentué pendant la pandémie. Maintenant, il y a énormément de banques alimentaires qui tourne à plein régime. Les petits commerces sont imposés fortement. Et donc, il y a un dilemme parce que les gens sont très partagés. L'immigration, effectivement, on est loin de la frontière mexicaine, mais on est proche de la frontière canadienne. En fait, juste de l'autre côté du lac, on voit les drapeaux du Canada. Mais il reste qu'il y a des migrants qui alourdissent vraiment, on va dire, l'édifice social. Alors, j'ai assisté à des mini-débats comme ça entre républicains et démocrates. Et l'économie revient souvent. Et j'ai voulu demander un petit peu mais à un économiste de la place, mais qu'est-ce qui serait plus bénéfique comme candidat à la, qui serait élu donc pour des villes comme Erie. Et il m'a dit, en fait, si on regarde les programmes, ce serait Harris qui serait la plus profitable pour ce genre de ville-là. Et donc, on a l'impression qu'ils ont toujours sélectionné le candidat gagnant parce qu'ils ont toujours essayé de rechercher la nouveauté. Et dans ce cas-ci, la nouveauté, ben, c'est peut-être prometteur pour Harris.
C'est effectivement Kamala Harris qui l'incarne. Guillaume, on termine ce petit tour de Pennsylvanie avec toi avant d'aller voir les autres thématiques. 19 grands électeurs à décrocher, c'est le plus important des 7 états pivots. Toi, tu as vu le camp d'en face finalement, puisque tu étais à un événement avec des soutiens de Trump.
Absolument, c'est le gros lot la Pennsylvanie hein, dans cette élection présidentielle. Et je me suis retrouvé à Morgantown, c'est juste au bord du comté de Lancaster, c'est la partie un peu rurale de la Pennsylvanie. On était allés ensemble il y a longtemps en reportage, toi et moi,
pas loin des Amish.
Sébastien, en pays Amish, exactement. Je me suis retrouvé dans un événement où il y avait Doug Burgum, le gouverneur du Dakota du Nord, et Kristi Noem, la gouverneure du Dakota du Sud. Le Dakota était venu en force en Pennsylvanie, et il y avait des électeurs trumpistes qui étaient là, et ils ont beaucoup insisté sur un aspect du discours de Kamala Harris qui les inquiète, qui est est-ce qu'elle ne va pas encore à nouveau changer d'avis sur l'exploitation du gaz naturel par fracturation hydraulique. C'est quelque chose qui les inquiète beaucoup, parce qu'en 2019, lors de sa première candidature présidentielle qu'elle a abandonnée assez rapidement, Kamala Harris disait vouloir interdire l'exploitation du gaz par fracturation hydraulique. Et c'est quelque chose qui a beaucoup compté, parce que c'est autorisé en Pennsylvanie actuellement. C'est quelque chose qui a beaucoup compté dans le rétablissement économique de la Pennsylvanie, notamment du nord de l'État. Les fermetures d'usines, etc., ont été compensées par l'exploitation de gaz. Et aujourd'hui, la Pennsylvanie fournit 20% du gaz naturel américain. Et les électeurs, là, ils ont un peu peur que Kamala Harris, qui dit que maintenant elle n'est plus pour l'interdiction de la fracturation hydraulique, ils ont un peu peur qu'elle change d'avis. C'est un enjeu précis, mais important dans cette campagne.
C'est une question délicate, Sonia, de varier comme ça sur le fracking, comme on dit en anglais, la fracturation hydraulique pour Kamala Harris dans cet état de Pennsylvanie.
Oui, et d'ailleurs, Donald Trump joue beaucoup là-dessus en disant que c'est une girouette. Elle s'est justifiée en disant que finalement, peut-être qu'avant, elle était contre, mais qu'aujourd'hui, eh bien, l'important, c'était de diversifier les sources d'énergie. Et on a l'impression qu'on est quand même un peu passé à autre chose. C'est vraiment une façon pour les républicains de l'enfoncer, entre guillemets, mais elle, je pense en tout cas, elle a réussi à convaincre les électeurs démocrates et des électeurs indépendants qu'il fallait passer à autre chose
et
qu'on pouvait changer d'avis.
On part maintenant un peu plus à l'ouest, on quitte la Pennsylvanie, on va à Springfield, Ohio. On a déjà parlé de ce village ici dans Washington DC. C'est le point central du pays depuis quelques jours, depuis que Trump a relayé des affirmations sans preuve pendant le débat. Vous vous souvenez que des immigrés haïtiens très nombreux dans cette ville du Midwest, ils seraient autour de 15 000, mangeraient des animaux domestiques. J'y suis allé la semaine dernière et le directeur du centre communautaire haïtien, Villès d'Orsainville, était un peu abasourdi par ses propos.
C'est vraiment inimaginable de dire une chose pareille, parce qu'on n'a pas ça dans notre culture en Haïti, de manger des animaux domestiques. Je ne sais pas d'où il vient avec ses propos, et il ne sait pas combien il a fragilisé la communauté en disant ces choses.
Le maire de Springfield et le gouverneur républicain de l'État de l'Ohio appellent à cesser d'entretenir de fausses rumeurs. Mais Trump et son colistier J.D. Vance n'ont pas l'air de les entendre. Qu'est-ce que ça vous inspire, Frédéric ou Jordan, là-bas?
Ben, en fait, on voit que les républicains, une fois qu'ils sont partis sur une tangente comme ça, ils vont renchérir. C'est comme impossible pour eux de revenir en arrière parce que c'est pas dans leur nature. Alors ils se disent, ben, continuons, parce que pour les partisans MAGA, dont ils ont absolument besoin pour rêver gagner, ben, il faut alimenter cette espèce de poêle à charbon avec ce genre de rhétorique controversée qui n'a ni queue ni tête, mais qui est vraiment essentielle pour essayer de rameuter ces troupes qui sont évidemment contre l'immigration et contre ce genre de concept là, complètement fou. Mais donc, ils continuent, il n'y a pas de limite et pas question pour eux donc de revenir en arrière.
Jordan, c'est une machine à anti-immigration aussi qu'on alimente, comme dit Frédéric?
Ben, c'est du red meat, c'est vraiment de la chair fraîche pour la base. Cette base maintenant qui entend Donald Trump dans ses discours politiques maintenant. Ici à Wilkes-Barre, juste à côté de la ville, à côté de Donald Trump était il y a un mois, il traitait les immigrés illégaux, comme il traite les Haïtiens d'ailleurs, qui ne sont pas en situation irrégulière. Mais il dit les immigrés illégaux sont des sauvages, des monstres sauvages. Enfin, je veux dire, c'est des registres de langage qui sont franchement inquiétants aussi pour le vivre ensemble aux États-Unis et surtout les Haïtiens. Donald Trump a une longue histoire où il qualifie les Haïtiens de tous les noms depuis longtemps. Les États-Unis, aux années 80, les Haïtiens étaient un peu les boucs émissaires. En fait, on disait que c'était eux qui avaient amené le sida. Donald Trump en est resté là. Il parlait de ça, même il y a très récemment, les Haïtiens porteurs de sida. Enfin, Donald Trump véhicule beaucoup de ses stéréotypes à l'encontre, ses préjugés à l'encontre de ces Haïtiens. Et voilà, on voit ça maintenant. Et c'est franchement inquiétant de voir à quel point il persiste et signe avec ça.
Ça nourrit son électorat, clairement, Sonia.
Oui, et ce qui est inquiétant encore, c'est que Donald Trump, en fait, de nouveau fait écho à des propos, à des rhétoriques de groupes néo-nazis. On dit notamment que le groupe néo-nazi Blood Tribe, sur Telegram, est ravi de cette dernière polémique. En fait, il se dit, en fait, il ne pouvait même pas espérer autant qu'un candidat fasse écho à leur théorie qu'ils nourrissent depuis déjà longtemps, parce que les groupes néo-nazis ont déjà cette théorie depuis longtemps, que les immigrés à Springfield notamment, ça, on en parlait beaucoup sur les réseaux sociaux depuis déjà des années. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une immigration légale d'Haïtiens ces dernières années dans l'Ohio et notamment à Springfield. Donc en fait, il y a des groupes extrémistes néo-nazis qui tiennent ces propos depuis des années et là, ils sont ravis que Donald Trump leur fasse écho. Et pour terminer, Donald Trump qui, malgré le tollé que ça a fait, même son vice-président qui a un moment un peu revenu en arrière pour finalement remettre une couche, eh bien, il y a quelques jours, il était en Pennsylvanie, évidemment, comme tu as dit, Guillaume, c'est vraiment le gros lot, et il a dit il faut les faire partir, et la foule a scandé, ramenez-les dans leur pays. Enfin, il continue, alors qu'on a bien vu que ça fait un tollé.
Guillaume ?
Oui, et ce qui est intéressant et inquiétant, c'est qu'on voit bien que beaucoup de monde y est allé, tu y es allé, le maire, le gouverneur de l'Ohio ont dit « mais c'est pas vrai, ces gens-là sont ici en situation régulière, ils apportent beaucoup à la communauté, ce sont des gens avec une éthique de travail, des travailleurs quoi. »
Ils font tourner les usines, ils dépensent leur argent sur place.
Exactement. Alors ils ne disent pas qu'il n'y a que des avantages, évidemment, quand vous avez 15 ou 20 000 personnes d'un même pays qui arrivent, ça met de la pression sur le logement, ça met de la pression sur les écoles,
les hôpitaux.
Mais ce qui est intéressant et inquiétant, c'est qu'une fois que cette rumeur est lancée par quelqu'un comme Donald Trump, on peut essayer de la débunker, comme on dit en anglais. Il n'y a rien à faire, c'est fini.
Impossible de l'arrêter. On verra, la prochaine étape, c'est de savoir s'il va y aller ou pas. Il avait dit qu'il irait. Aux dernières nouvelles, il n'a pas l'air finalement si sûr que ça. Il faut dire que ça coûte cher aussi les déplacements. Puis il n'est pas tout jeune, Monsieur Trump. On verra s'il y va. Autre sujet de la quinzaine, le show chez Oprah Winfrey. C'était la semaine dernière. Kamala Harris, invitée d'une soirée entre entretien et meeting politique avec des stars. Kamala Harris qui fait cette remarque sur les armes.
Je suis moi aussi propriétaire d'une arme. Et si quelqu'un force l'entrée de chez moi, il se fera tirer dessus. Je n'aurais peut-être pas dû dire ça.
Pourquoi avoir dit ça d'après vous ? C'est pour prouver qu'elle n'est pas contre les armes, mais pour une interdiction des fusils d'assaut. Elle cherche, Sonia, à draguer les électeurs républicains ?
Complètement, parce qu'on le sait déjà que cette élection sera extrêmement serrée. Donc oui, elle veut draguer les électeurs républicains dits modérés et aussi les nombreux électeurs indépendants. Et on sait que beaucoup, même des démocrates, tiennent au second amendement. Donc elle a voulu faire passer le message que oui, il faut limiter la vente d'armes, contrôler la vente d'armes interdire si possible les fusils d'assaut, ça c'est la politique des démocrates, mais qu'elle n'est pas contre avoir une arme chez elle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a dit, voilà, vous l'avez entendu, moi si quelqu'un rentre chez moi, je lui tire dessus, ah j'aurais pas dû dire ça, je vais laisser mon équipe gérer avec, mais c'était de la super com aussi. Évidemment, quand on passe chez Oprah Winfrey, c'est une étape clé de la campagne. Oprah Winfrey qui quand même s'est décrite comme électrice indépendante dans le passé. Donc c'est intéressant parce que même si elle est proche des démocrates, c'est ce type de personne qu'elle peut tenter de convaincre. Et voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'était de la voir plus naturelle, plus sympathique. Parfois, on la voit comme ça, par exemple, quand elle était avec sa sœur, dans des vidéos, dans des meetings, mais on ne la voit pas aussi charismatique et naturelle aussi fréquemment que ça. Donc là, c'est aussi intéressant de la voir se lâcher un petit peu.
Un peu spontanée. Tu trouves aussi, Jordan, qu'elle était spontanée, que c'était bien calculé tout ça ?
Oui, il y a un côté performatif de ce genre d'exercice parce que là, elle est en train de donner une image de quelqu'un qui ressemble aux Américains, qui vous ressemble, qui a les mêmes valeurs que tout le monde. Alors que surtout pour une femme noire, il faut dire, c'est pas évident. Beaucoup de gens vont dire, ah oui, elle est folle, elle est tarée, elle est totalement sur le côté gauche de l'échiquier politique. Elle essaie vraiment de casser cette image-là. Donc avec ce genre de sortie, même si c'est pas forcément ça qui va être décisif, les gens se disent, les gens l'entendent et ils se disent, bon, elle est comme moi. Et elle lisse un peu son image en faisant ce genre de sortie.
Elle lisse son image et ça élargit son électorat, Frédéric ?
Bon, en tout cas, c'est évidemment le souhait de sa part. Il faut quand même dire que les Républicains, depuis le début, ont toujours essayé de dépeindre les démocrates comme des gens qui vont arriver chez vous, frapper à la porte et vont confisquer vos armes, alors que c'est complètement faux. C'est pas ça qu'ils veulent faire. C'est avoir un meilleur contrôle des armes, une meilleure vérification des antécédents judiciaires, par exemple. Mais c'est clairement ici une façon de viser ces États pivots. Par exemple, les États du Nord, comme le Michigan, la Pennsylvanie et l'Ohio, où la chasse, évidemment, est très importante. Donc, on ne veut pas toucher à ce droit de porter des armes. Et c'est aussi le cas dans les États de la Sun Belt, les autres États pivots dans le Sud, comme la Géorgie et l'Arizona, où là, c'est vraiment le Far West, où on tient vraiment à cette espèce de légitime défense avec les armes à feu, évidemment.
Je pense que, surtout en Europe, les gens ne se rendent peut-être pas compte, mais ici aux États-Unis, il y a énormément de gens, entre guillemets normaux, il n'y a pas que des fusils qui ont des armes à la maison. Mes tantes avaient des armes dans leur sac à main. Donc, c'est très courant ici. Et donc là, elle parle quand même, ce n'est pas une frange de l'électorat ici. Non, c'est quand même beaucoup d'Américains moyens, entre guillemets normaux, qui sont concernés, qui se voient dans ce genre de propos.
Même les tantes de Jordan Davis ont un pistolet dans leur sac à main.
Et on les connaît, elles sont très gentilles en plus. Donc c'est quand même, voilà, c'est une information.
On aura appris quelque chose. Des élus républicains traditionnels, il y en a d'ailleurs certains qui se rangent derrière Harris, l'ancien vice-président de Bush, Dick Cheney évidemment, et sa fille Liz, d'anciens collaborateurs des campagnes ou des administrations républicaines précédentes. Sonia, tu as rencontré l'un de ces républicains qui va voter démocrate. C'est un ancien élu de Virginie.
Oui, Denver Riegelman. Et d'ailleurs, c'était plutôt sympa parce que j'ai été le voir dans sa distillerie de whisky en plein milieu des Blue Ridge Mountains près de Charlottesville. Donc c'était sympa. Oui, il nous a servi un verre à la fin. Et Denver Riegelman, c'est justement un proche de Liz Cheney. Et ce qui est intéressant, donc lui a quitté le parti républicain, notamment après l'attaque du 6 janvier, d'autant plus qu'il a fait partie du comité du 6 janvier, donc le comité spécial de la Chambre des représentants qui a été chargé de faire la lumière sur cette attaque du Capitole. Et donc, c'est notamment lui, avec son équipe, qui a trouvé les textos des proches de Donald Trump, des collaborateurs. Et en fait, il est persuadé que c'était vraiment une attaque organisée. Et donc, il est complètement dégoûté de Donald Trump, pour dire, le dire en deux mots. Et il, vous allez entendre, il nous dit pourquoi il va soutenir Kamala Harris.
She's been vice president. She's been a prosecutor.
Elle a été vice-présidente, elle a été procureur. Je pense qu'elle a choisi un bon candidat en la personne de Tim Walz. Et elle n'est pas folle. Et ne pas être fou est une chose importante en politique aujourd'hui aux États-Unis. C'est pour ça que je préfère toujours la raison à la folie. Et Trump a presque 80 ans, n'est-ce pas ? On peut dire qu'il vieillit, que la démence s'installe, il est sénile. Mais il n'a pas non plus changé depuis qu'il est devenu une sorte d'ignorant autoritaire, idiot. J'aimerais avoir des mots plus fleuris pour définir la stupidité.
Voilà, Trump plutôt rhabillé pour l'hiver, Guillaume.
Oui, et puis le fait d'avoir des soutiens de personnalités du Parti républicain, c'est quelque chose que Kamala Harris remet en avant depuis la convention démocrate à Chicago notamment. Et puis, moi, quand je suis allé en Pennsylvanie l'autre jour, je suis allé la voir à un meeting à Wilkes-Barre et elle s'est fait présenter lors de ce meeting par une infirmière qui est arrivée dans la salle, là, dans le gymnase, en disant bah, « je suis désolé, mais moi, je suis une républicaine ». J'ai été républicaine toute ma vie et je vais voter Kamala Harris. Donc c'est vraiment quelque chose qu'elle travaille, c'est une stratégie pensée, consciente et sur le long terme.
Allez, on passe au personnage sulfureux de la semaine. Enfin, pas vraiment de la semaine parce qu'il fait parler de lui en fait depuis déjà un bon moment. C'est le candidat républicain au poste de gouverneur de Caroline du Nord, un certain Mark Robinson, soutenu par Trump. On rappelle d'abord pourquoi il est célèbre ici. Jordan, tu nous rappelles qui c'est ce monsieur Robinson ?
Mark Robinson, c'est le lieutenant governor, c'est-à-dire l'adjoint, si vous voulez, le numéro 2, le vice-président, si vous voulez, de son État. Et il a un lourd passif avec des remarques sur les réseaux sociaux depuis longtemps, de commentaires antisémites contre les LGBT. Et là, il a réussi à remporter la primaire de la Caroline du Nord. Et il y a des révélations comme quoi il laissait des messages sur des messageries porno où il racontait beaucoup de ses exploits sexuels avec la sœur de sa femme. Je vous passe les détails. Mais surtout, il s'est dit, entre autres, I'm a black Nazi, je suis un nazi noir, et il fait l'apologie de l'esclavage et tout ça. Forcément, ça fait un tollé. Il y a beaucoup de gens, ses conseillers qui l'abandonnent. Et là, il ne s'est pas retiré. C'était vraiment, cet article est sorti juste avant la dernière limite pour qu'il se retire. Il ne s'est pas retiré, donc il va figurer bien sur le bulletin en novembre.
Homophobe, négationniste, conspirationniste, Frédéric, le portrait est complet. Et en plus, il se retrouve quasi seul maintenant.
Oui, et c'est un problème évidemment pour les Républicains et Trump, parce que c'est un candidat qui a été choisi et adoubé par Donald Trump lui-même. Il a parlé de lui comme un Martin Luther King sur stéroïdes, c'est assez incroyable. Mais encore une fois, c'est un exemple de candidats de piètre qualité qui ont été choisis et soutenus par Donald Trump. Et c'est un problème pour les Républicains parce qu'en 2022, lors des élections de mi-mandat, Donald Trump avait soutenu mais des dizaines et des dizaines de candidats avec beaucoup de casseroles, des gens de piètre qualité. Et l'impact qui est arrivé, c'est que pendant les élections de mi-mandat, Donald Trump et les Républicains ont perdu beaucoup de sièges qu'ils auraient pu gagner et donc essayer d'obtenir des majorités au Sénat et au Congrès. Donc encore une fois, on est en 2024 et un État comme la Caroline du Nord, qui est un État qui bascule de temps à autre des deux côtés, c'est problématique. Et les gens commencent à se dire, mais avec un aussi mauvais candidat, est-ce qu'il n'y aura pas un impact négatif aussi pour de la course à la présidentielle avec Trump qui pourrait pâtir dans le fond du choix qu'il a fait et de l'image très négative qu'il donne du Parti républicain face aux électeurs de la Caroline du Nord.
Et il ne peut pas se permettre de perdre la Caroline du Nord.
Non, il ne peut pas se permettre, il peut se permettre de perdre aucun État, c'est tellement serré, ce n'est pas possible. En fait, ce qu'il faut bien rappeler, c'est qu'on a un bulletin unique aux États-Unis. On a up the ballot avec les deux candidats à la présidence et on a des différentes élections qui sont down the ballot, c'est-à-dire il y a des référendums locaux et l'élection du gouverneur en l'occurrence. Et ce qui est très clair, c'est que les démocrates espèrent que la chute libre, parce qu'il est en chute libre dans les sondages, Mark Robinson, va mobiliser des électeurs pour qu'il entraîne dans sa chute, pour qu'il plombe la candidature de Donald Trump en Caroline du Nord et que ça puisse les aider à faire basculer cet État.
Ou que ça démobilise les Républicains.
Et ce qui est hallucinant, c'est que pour l'instant, il ne démissionne pas, il persévère et il y a toute une partie des MAGA qui vont croire sa théorie parce qu'il déteste tellement les médias libéraux. Il dit je vais poursuivre en justice CNN parce que c'est eux qui ont sorti ces infos. Et ce qui est fou, c'est de voir une bonne partie aussi des pro-Trump qui le croient.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne pensait pas que la Caroline du Nord allait se trouver sur cette fameuse liste très courtisée des États pivots. Parce que si on regarde les statistiques là, entre 2000 et 2020, en fait, à chaque fois, ils ont voté pour le candidat à la présidentielle républicain, sauf une fois, c'était en 2008 avec Barack Obama. Mais pour le reste, là, c'est quand même assez stable au niveau présidentiel et au niveau républicain. Et là, on se pose vraiment la question de savoir mais comment ça va évoluer le 5 novembre prochain.
On verra ce qui va se passer pour Mark Robinson. On se quitte en tout cas avec ce personnage un peu sulfureux. Dans le prochain numéro, on parlera du débat des vice-présidents, les colissiers Tim Walz et J.D. Vance. Et on espère que ce sera, disons, un peu plus civilisé. Salut à tous.
Salut.
Salut.
Espérons-le. Ciao.
Et merci.
Washington DC. Le podcast des médias francophones publics. Radio-Canada, Radio France, RTS, RFI, RTBF.